notre conférencier de ce soir, Jacques Livage, qui est professeur au Collège de France à la chaire de chimie de la matière condensée et membre de l'Académie des sciences. Quelques dates concernant son parcours. Donc en 1960, il est diplômé ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Il effectue ensuite en 1966 son doctorat d'État à l'Université Paris-Sorbonne et en 1974 devient professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. Depuis 2001, il est donc professeur au Collège de France. Chimiste du solide, Jacques Livage a été à l'origine du développement de la chimie douce dans le domaine des matériaux. Inspiré des processus de biominéralisation, ces nouvelles méthodes, connues sous le nom de procédés sol-gel, permettent d'élaborer des verres et des céramiques dans des conditions proches de l'ambiante. Jacques Livage a joué un rôle fondamental dans le développement de la chimie douce et des procédés sol-gel. Il est le co-auteur de plus de 450 publications. Donc je vais lui donner la parole pour un peu moins d'une heure ou une heure, et après quoi vous pourrez donc lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup.
Bien. Voilà, merci bien. Donc on va parler des matériaux. Matériaux, je dirais que c'est peut-être une des premières manifestations de l'intelligence humaine. Ça remonte au tout début de la préhistoire. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un matériau? Mais c'est simplement lorsque l'homme a pris une pierre et lui a donné une forme en tapant dessus, en taillant la pierre, de façon qu'elle devienne un outil, que ça puisse être une hache, une pointe de flèche ou un marteau. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que matériau, c'est de la matière, bien évidemment, mais à laquelle on a donné une forme appropriée à l'usage que l'on veut en faire. La notion de forme du matériau est quelque chose qui est très importante. Alors bien évidemment, pendant des siècles et peut-être même des milliers de siècles, les matériaux qu'utilisait l'homme, c'était évidemment les matériaux naturels, le bois, la corne, l'os, les dents, etc. Et la science des matériaux à cette époque-là, c'était simplement donner la forme appropriée aux matériaux. La grande révolution dans ce domaine-là, ça a été la découverte du feu. Découverte du feu, pourquoi? Parce que premièrement, le feu va permettre de mettre en forme le matériau. J'ai pris ici l'exemple du forgeron qui chauffe le fer de façon à le rendre plus ductile et ensuite en tapant dessus il donne une forme. Mais, et c'est plus important, le feu va permettre de transformer la matière. Transformer la matière, c'est-à-dire partir par exemple des oxydes de fer et dans un haut fourneau ou un besmer faire une réaction chimique de façon à obtenir le métal. Et si vous voulez, toute l'histoire de l'humanité se résume en fait à la nature des matériaux que nous utilisions. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, du bronze, l'âge du fer. Mais derrière cette série de matériaux se cache aussi l'aptitude qu'avait l'homme à fabriquer, à maîtriser des températures de plus en plus élevées. La température ambiante, bien sûr, quand on taille de la pierre, mais cuivre, bronze, il va falloir monter à quelques centaines de degrés. Pour le fer, il va falloir dépasser le millier de degrés. Donc on voit l'importance des matériaux dans l'histoire de l'humanité et, sous-jacente, l'importance de la maîtrise du feu. Alors pourquoi un matériau est important? Simplement, chaque fois que l'homme maîtrise un nouveau matériau, ça change complètement sa vie. Vous avez ici l'âge de la pierre avec une hutte en paille et vous voyez maintenant la pyramide du Louvre en métal et en verre. Vous avez par exemple ici le pont du Gard qui est superbe, qui est en pierre. Vous avez le viaduc de Millau avec toutes les technologies du moderne, avec les aciers, etc. Donc vous voyez que chaque fois qu'il y a un matériau nouveau, ça change complètement la physionomie. Le menhir, à l'âge de la pierre, qu'est-ce qu'on a érigé à l'âge du fer au XXe siècle? Eh bien on a érigé la tour Eiffel. C'est la même idée, mais pas du tout la même nature de matériau. Et si on veut regarder à aujourd'hui, je dirais que maintenant, on est en plein dans l'âge du silicium. L'âge du silicium, avec derrière toutes les révolutions technologiques que vous connaissez. Bien sûr, toute l'électronique, l'informatique, les nanomatériaux, les nanotechnologies, et toute la révolution qu'on a connue dans le domaine de l'audiovisuel, de la visualisation, de la mémorisation, des ordinateurs, etc. Mais là encore, derrière cette histoire de l'âge du silicium, se cache la maîtrise de températures encore plus élevées. Le minerai pour le silicium, c'est évidemment la silice, qu'il faut réduire à très haute température, 1700 degrés, purifier de façon à avoir du silicium de pureté électronique, et ensuite faire des monocristaux, et vous voyez que tout ça se passe à des températures qui sont assez proches de 2000 degrés, 1500 à 2000 degrés. Donc là encore, un palier supplémentaire par rapport au fer, il faut monter encore en température. Et puis des technologies extrêmement sophistiquées pour faire des réseaux petits, des CVD, plasma, bombardement ionique, épitaxie moléculaire, etc., etc. Donc si vous voulez, quand on fait le bilan de toute cette affaire-là, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, l'on constate que l'évolution de l'humanité liée à l'évolution des matériaux est aussi lié à l'aptitude à maîtriser des températures de plus en plus élevées et des techniques de plus en plus sophistiquées. Donc je dirais qu'en gros, l'histoire de l'humanité, ben, c'est la guerre du feu. Alors il faut peut-être pas être aussi pessimiste que cela. Et il y a une bonne trentaine d'années maintenant, j'avais écrit un article dans le journal Le Monde qui se disait que finalement, il faudrait peut-être essayer d'inventer une chimie douce, d'où le terme de chimie douce, qui s'intègre de façon plus harmonieuse dans les processus naturels. Plutôt que de courir après des températures plus élevées, des techniques de plus en plus sophistiquées, eh bien, il y a peut-être un moyen d'être plus proche de la nature. Alors, ce moyen d'être plus proche de la nature, ben, c'est de revenir aux sources de la vie. La vie est née dans les océans. Et si vous prenez une épuisette et que vous regardiez ce qu'il y a à la surface de la mer, ici, de l'océan, ben, vous allez ramasser ce qu'on appelle du plancton marin, c'est-à-dire tout un tas de micro-organismes qui forment le plancton. Alors c'est à cela que je vais maintenant consacrer la suite de l'exposé, en focalisant sur juste un type de matériau qui est la silice. La silice, les verres de silice, c'est des matériaux extrêmement courants qui ont été développés il y a déjà plusieurs milliers d'années, qui permettent de faire des bouteilles, de faire des verres, de faire des vitrages, des pare-brises, des fibres optiques, etc., etc. Donc c'est vraiment un matériau de base de notre civilisation. Et vous le trouvez, la silice, sous forme naturelle, sous forme de minerai, pas sous forme de sable, par exemple, sous forme de cristaux de quartz. Vous l'avez aussi sous forme de pierres volcaniques, de verres volcaniques, qui sont l'obsidienne. Et c'est là qui est intéressant, c'est que vous avez de la silice, que j'appellerais de la silice biogénique, c'est-à-dire qui est fabriquée par le vivant, en particulier par des micro-organismes qu'on appelle des diatomées. Alors vous en avez ici un exemple, quelques exemples de diatomées qui s'entourent de silice et qui ont, vous le voyez, des formes tout à fait superbes. Des formes tout à fait superbes, ce qui fait que la première chose qui est attirée le scientifique, en l'occurrence c'était Charles Darwin au XIXe siècle, eh bien c'était la beauté de ces coquillages, de ces micro-organismes en silice, et il se posait la question, à quoi ça sert, pourquoi sont-elles si belles, est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux? Alors bien évidemment, ce n'est pas, si Dieu le Père a fait ces diatomées si belles, c'était pas uniquement pour le plaisir des yeux, c'est parce qu'il y a derrière des propriétés intéressantes. Alors, propriétés intéressantes, deux mots sur les diatomées, c'est premièrement des micro-algues du phytoplancton, c'est-à-dire une cellule, des unicellulaires. Deuxièmement, c'est des organismes photosynthétiques, donc ils consomment le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer ensuite des molécules biologiques. Juste à titre d'indicatif, c'est le quart du CO2 qui est dans notre atmosphère qui est consommé par les diatomées. Donc ça joue un rôle extrêmement important sur le plan de l'écologie. Et c'est ce qui va m'intéresser ici, cette cellule unique, il faut bien sûr qu'elle se protège du milieu extérieur, et pour cela elle s'entoure d'une carapace qui est en silice, qui est du verre de silice, et que l'on appelle une frustule. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que ce matériau ? Ben, finalement, quand les diatomées vont mourir, elles vont tomber au fond de l'océan, au fond des lacs, au fond des rivières, et la partie biologique va se dégrader, et va rester la partie silice, qu'on appelle, qu'on trouve sous forme de sédiments, vous voyez, des sédiments ici de silice, qu'on appelle des diatomites, des terres de diatomées, du kieselgour, etc. Et si vous regardez, ben, c'est fabriqué, c'est simplement l'agglomération de toutes ces petites carapaces de silice. Alors ça, c'est en fait un matériau que l'on connaît bien et qui est déjà très utilisé. 200 000 tonnes par an en France, la consommation de terres de diatomées. Et l'intérêt essentiel, c'est que c'est très poreux. On va revenir sur cette histoire de porosité, mais vous devinez que pour que la cellule puisse vivre, il faut qu'elle échange avec le milieu extérieur, et donc il faut que des molécules puissent passer à travers. Donc c'est la porosité qui est intéressante, et ça sert essentiellement à faire des filtres, pour filtrer de l'eau des piscines, pour filtrer le vin de Bordeaux, ou bien des charges pour renforcer les propriétés mécaniques des polymères. Et puis il y a une application que vous connaissez bien évidemment, qui est celle développée par Alfred Nobel, pour pouvoir manipuler la nitroglycérine, qui est un liquide explosif extrêmement dangereux, dès que vous touchez, pof, ça explose, eh bien vous allez la stabiliser en imprégnant des terres de diatomée par la nitroglycérine dans ce milieu très poreux. Et ça vous fait la dynamite. Bien, quelques applications encore récentes. Les indices biologiques. Quand vous prenez une rivière, un lac, un étang, peu importe, vous avez une grande population de diatomées. Et si vous regardez un petit peu dessus, ben vous voyez que vous avez tout un tas de diatomées. Et la nature des diatomées qui sont là va vous renseigner sur la qualité biologique de l'eau. Et donc vous pouvez à partir de là définir un indice biologique de la qualité de l'eau qui vous permet de dire si elle est bonne, pas bonne. Et vous trouvez des cartes comme celle-ci qui ont été établies à partir des populations de diatomées dans les rivières et qui vous disent que l'eau est de bonne qualité, moyenne ou mauvaise. Donc c'est un indicateur de la qualité biologique de l'eau. C'est aussi en criminologie quelque chose qui est très utilisé. Vous trouvez un cadavre, donc ça c'est une histoire de criminologie d'il y a quelques années, vous trouvez, ou 3 ans, vous trouvez un cadavre qui est noyé dans un étang. Eh bien, si vous regardez la population, l'eau qui est à l'intérieur des poumons, qui a été absorbée donc au moment où la victime se noyait, vous pouvez regarder quelle est la population de diatomées, et elle est caractéristique de l'étang dans lequel la personne s'est noyée. Donc on peut définir si elle a été noyée dans cet étang-là ou à 10 km de là. Donc au point de vue criminologie, l'analyse des diatomées dans les poumons, c'est quelque chose qui est très important. Bien. Ce que je voudrais vous montrer, avant d'aller plus loin, c'est que les diatomées, ce sont des véritables nanomatériaux vivants. Ça, c'est un numéro spécial de cette revue, consacré justement aux nanotechnologies basées sur les diatomées. Alors pourquoi c'est un nanomatériau vivant? Ben, vivant parce qu'il est vivant, bien évidemment. Hein. Il va se diviser, se reproduire, etc., se développer. Et ce qui est intéressant, j'avais souligné que c'était très poreux pour permettre les échanges avec le milieu extérieur, bien c'est que cette porosité n'est pas quelconque. Elle est hiérarchisée. Il y a des petits pores, il y a des moyens, il y a des grands. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en nanotechnologie. En nanotechnologie, quand on veut faire des choses de ce style-là, on fait une couche de petits pores, une couche de moyens, une couche de gros. Là, c'est en un seul morceau, en une seule étape. Alors, vous allez voir, voilà par exemple une diatomée ici. On va approcher le microscope et regarder de plus en plus près. Donc, vous voyez la distribution des pores. On regarde, on s'approche encore. Vous voyez qu'à l'intérieur des pores plus gros, il y en a des plus petits. Et qu'ensuite encore, vous avez des pores. Donc, vous voyez, vous avez une porosité qui est parfaitement calibrée sur une échelle qui va de 10 nanomètres à 1/10 de micron. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a une surface extrêmement importante et donc une interface avec les gaz, l'atmosphère, très importante. Et si dans l'atmosphère vous avez un gaz, par exemple tel que l'oxyde d'azote qui est ici, il va pénétrer à l'intérieur de ces carapaces de silice et il va s'absorber sur la silice et en modifier les propriétés. Alors par exemple ici, les propriétés de luminescence, si vous irradiez avec des UV, il va y avoir une luminescence et l'importance ou la position de cette luminescence va dépendre de la nature du gaz. On peut faire un capteur très facilement en mettant simplement la diatomée sur le bout d'une fibre optique, par exemple. Autre propriété qui va être modifiée, ce sont les propriétés électriques. Donc en faisant des mesures électriques, on arrive à déterminer, comme ceci, la présence d'un gaz. Donc ce sont des capteurs de gaz qui peuvent être très intéressants et qui sont tout faits. Il suffit de prendre les diatomées de la nature, de tuer la bête et puis de... Parce que pour une bête, d'ailleurs, c'était une algue, d'éliminer la partie biologique et vous avez la carapace de silice qui va vous servir. Si on regarde d'un peu plus près, c'est encore plus intéressant parce que vous voyez que les trous ne sont pas répartis de façon aléatoire. Il y en a des petits, des moyens, des gros. Mais si vous regardez, par exemple, ici, les gros, vous voyez qu'ils sont distribués de façon régulière, de façon périodique. Ça forme ce qu'on appelle un cristal photonique. Et vous voyez que la maille, là c'est une symétrie hexagonale, que la maille c'est 0,6 microns. Même dimension que la longueur d'onde de la lumière. Alors ça veut dire quoi ces cristaux photoniques? Ça veut dire que vous avez une distribution périodique, non pas des atomes dans un cristal, mais des milieux d'indices. Le trou, c'est l'air, d'indice 1, la silice, indice 1,5, qui sont distribués de façon périodique. C'est ce qu'on appelle un cristal photonique. Et la conséquence, c'est que la lumière, les photons, vont se propager dans ce cristal photonique comme les électrons dans un cristal semi-conducteur. Donc il va y avoir des bandes interdites, il va y avoir la propagation de la lumière va ne pas être quelconque. Alors ça, c'est quelque chose qui, en physique, a été découvert il y a une ou deux décennies et qui fait beaucoup de bruit maintenant sur les cristaux photoniques, les métacristaux, etc., etc. Et ça, les diatomées l'ont inventé il y a 300 millions d'années. L'homme, il y a à peu près 10-15 ans. Alors, conséquence. Une première conséquence, c'est ce qu'on appelle l'iridescence. L'iridescence, par exemple, de l'opale ou des papillons, eh bien, c'est dû à des structures de cristal photonique. Eh bien, les diatomées, si vous les regardez, sont aussi iridescentes. Bon, ça, c'est joli, mais c'est pas particulièrement intéressant. Plus intéressant, c'est la chose suivante. Vous prenez la fossile de diatomée. C'est de la silice, c'est du verre, donc c'est transparent. Vous éclairez avec un faisceau laser et vous constatez que le faisceau laser est focalisé. C'est-à-dire que la fossile de diatomée se comporte un peu comme une lentille optique. Alors, conséquence de ça, intérêt de cela. Premier intérêt, c'est que les diatomées sont photosynthétiques, qu'elles sont tout à fait à la surface de l'eau. Surface de l'eau, il y a des UV, qui évidemment sont nocifs pour la partie vivante de la diatomée. Donc, avec cette distribution de pores, ces cristals photoniques ont réfléchi les UV, ils ne vont pas pénétrer. Et deuxièmement, on focalise la lumière visible sur les cellules qui font la photosynthèse, c'est-à-dire sur les chloroplastes. Ça veut dire que cette frustule de silice, premièrement, elle est dure de façon à protéger le micro-organisme, elle est poreuse de façon à lui permettre de faire des échanges biologiques avec le milieu extérieur, et la porosité n'est pas quelconque de façon à jouer avec la lumière, à optimiser la réception de la lumière. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inflexions derrière cette affaire-là. Alors ce que l'on peut faire, c'est maintenant prendre ces diatomées, et puis les utiliser comme des nanomatériaux. Alors c'est très facile, parce que les cultures de diatomées, c'est pas quelque chose de très difficile. Elles se divisent assez rapidement, en une heure ou deux, c'est-à-dire que vous pouvez, en quelques jours, avoir des quantités importantes de diatomées, toutes identiques. Hein, vous partez d'une diatomée, et elle va donner deux, puis quatre, puis huit. Et il y a 100 000 espèces différentes de diatomées, donc 100 000 formes différentes, contrôlé génétiquement, d'où vous voyez, vous avez un panel de matériaux au départ qui est tout à fait extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, par exemple, si dans le milieu de culture vous rajoutez certains éléments étrangers, ils vont intervenir dans le métabolisme de la diatomée et vous allez les retrouver dans la coque de silice. Alors par exemple, si vous mettez du germanium, eh bien, il va s'introduire dedans et permettre de faire un luminophore qui va émettre de la couleur bleue. Si vous mettez du titane, ça va donner une couche d'oxyde de titane qui va permettre, par exemple, de faire du photovoltaïque des cellules solaires. Donc vous voyez, on peut utiliser ces frustules comme système de base pour fabriquer des matériaux autres que la silice. On peut faire une réaction chimique. Vous la chauffez, cette silice, en présence de magnésium vapeur, bien vous allez oxyder de magnésium et avoir l'équivalent en oxyde de magnésium, et vous voyez que la morphologie n'est pas du tout modifiée. Vous pouvez le transformer en oxyde de magnésium, de titane, nitrure de bore, etc. Et, peut-être le plus joli manip, c'est d'aller jusqu'au bout de la réduction et d'éliminer le MgO par dissolution dans un acide, et vous avez ici un fossile de diatomée qui est en silicium. Silicium, c'est un matériau semi-conducteur. C'est-à-dire que vous avez à la fois de l'électronique et de la photonique. Et donc, vous voyez, il y a tous les ventailles de possibilités qui s'ouvrent si on utilise ces micro-organismes pour faire des nanomatériaux. Alors, deuxième aspect que je voudrais développer un petit peu, c'est comment peut-on s'inspirer de cet exemple du vivant pour développer nos propres procédés. Alors ça, c'est un article que j'avais écrit pour la science, il doit y avoir 2 ans. Le verre, vous le savez, c'est fabriqué, on prend du sable, on le fond au-dessus de 1000 degrés, et ensuite on le met en forme par soufflage ou par d'autres techniques. C'est des opérations qui jouent avec le feu et des températures supérieures à 1000 degrés. Ben, les diatomées font la même chose, mais à température ambiante dans l'eau. Il dirait que l'eau a remplacé le feu. Donc la question, c'est est-ce que l'on peut, nous, être humains, faire pareil et fabriquer du verre dans l'eau à température ambiante et non pas dans des fours au-dessus de 1000 degrés. Alors comment font les diatomées? Bon, c'est pas très compliqué. Vous savez que 90% de l'écorce terrestre, sont des silicates. Quand il pleut, eh bien, une partie de la silice se dissout, et vous retrouvez cette silice dissous sous forme moléculaire, on l'appelle de l'acide silicique, un silicium entouré de quatre groupements OH, qui est soluble, qui part donc dans les rivières, les lacs, les étangs, la mer. Et ce que fait la diatomée, ben, c'est simplement, vous direz, la réaction inverse de la dissolution. Si vous prenez deux molécules d'acide silicique, vous voyez qu'il y a deux groupements OH et vous pouvez éliminer une molécule d'eau et faire ce qu'on appelle un oxygène pontant, c'est-à-dire prendre deux tétraèdres et les lier par un oxygène, par un sommet commun. C'est ce qu'on appelle une réaction de condensation. Et si vous la faites, si vous continuez cette réaction, ben vous passez de SiOH 4 fois à SiO2 plus de l'eau. Donc vous fabriquez un réseau de silice par des réactions qui sont en fait des réactions de polymérisation. Alors les diatomées font ça à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire que l'acide silicique, la silice dissoute, passe à travers la membrane, est stockée dans des vésicules. C'est à l'intérieur de ces vésicules que se fait la réaction, qui va donner des petites billes de silice, qui ensuite sont déposées à la surface pour former la coque, la frustule de silice. Alors ça se passe quand? Ben, ça se passe au moment où la diatomée se divise. Diatomée, c'est quelque chose qui ressemble un peu à une boîte. Une boîte de pétri, avec un couvercle et un fond. Eh bien, lorsque vous ouvrez la boîte pour donner deux cellules, ben vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a une cellule fille et l'autre qui n'ont que la moitié de la boîte. Donc, il faut qu'elle fabrique l'autre moitié aussi vite que possible, de façon à échapper aux prédateurs. Et donc, elle fabrique la partie qui manque en silice en un temps qui est de l'ordre de 1 à 2 heures. 1 à 2 heures à température ambiante pour fabriquer ce couvercle de verre. Dans l'industrie, entre le moment où on prend le sable et le moment où on va souffler la bouteille, il y a plus de 12 heures au-dessus de 1000 degrés. Donc vous voyez, il y a un processus biologique qui est extrêmement compétitif avec des processus industriels. Bien, si on regarde la chimie, puisqu'on parle de chimie, c'est ce que j'avais dit, c'est une réaction de condensation. C'est-à-dire que maintenant, on va fabriquer un matériau qui est, je dirais, un matériau réfractaire à haute température, un verre ou une céramique. Eh bien, on va le fabriquer exactement comme nos collègues polyméristes fabriquent de la matière plastique, un polymère organique. C'est-à-dire qu'on prend un précurseur moléculaire, c'est le tétraèdre SiO4, et puis on les colle par la réaction de condensation 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle des oligomères. Et si on va jusqu'au bout, eh bien, on a un réseau infini de silice. Alors, lorsque l'on fait ça, on passe d'une solution, on arrive à un solide, et intermédiairement, on a des phases de plus en plus condensées, ce que Pierre-Gilles Degène appelait de la matière molle, et qui forment des solutions colloïdales, qu'on appelle des sols ou des gels. Et c'est d'où le nom du procédé industriel qui est basé sur cette affaire-là, qui s'appelle le procédé sol-gel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le procédé sol-gel, enfin, toute cette chimie-là, n'a pas été développé par les universitaires. Ce sont les industriels, le verrier allemand, Schott-Glaswerke, qui, dans les années 39, a pris le premier brevet pour utilisant ce procédé-là pour faire des revêtements sur le verre. 39, c'était le début de la guerre, 39-40, évidemment, ça a retardé le développement industriel, et la première commercialisation est arrivée à peu près une vingtaine d'années plus tard. Mais vous avez maintenant sur le marché, dans le domaine du verre, des verriers, vous avez énormément de produits qui sont fabriqués par des procédés sol-gel. Les universitaires sont beaucoup tardés. Le premier congrès international, c'est 1981. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 10-20 ans avant que les universitaires commencent effectivement à se dire « Tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a peut-être de la science et pas simplement du procédé derrière. » Alors, quel est l'intérêt de développer un nouveau procédé dans le domaine des matériaux? Bah, là, il y a bien sûr un intérêt évident, c'est le gain d'énergie. On travaille à température ambiante dans l'eau au lieu de travailler au-dessus de 1000 degrés. Donc ça, c'est évident. Ce n'est pas le plus intéressant. Le deuxième intérêt, c'est, je dirais, qu'on va fabriquer le matériau pièce par pièce. Hein, j'ai pris un tétraèdre, un deuxième, un troisième. Un peu comme la muraille de Chine qui est fabriquée brique par brique. C'est un parallélépipède. Et selon que vous allez mettre la première brique comme ça ou comme ça, vous allez pouvoir avoir une forme ici de serpent qui n'a plus rien à voir avec la forme de la brique élémentaire. Donc on va pouvoir fabriquer, construire des matériaux sur mesure. Je ne vais pas développer cet aspect-là, mais il y aurait plein de choses que l'on pourrait dire. Et puis, Et puis, ce qui est intéressant, c'est pas simplement qu'on peut les fabriquer sans chauffer, mais c'est qu'on va pouvoir mettre au point des techniques d'élaboration, de mise en forme. J'avais souligné l'importance de la forme, hein, de mise en forme qui sont originales à partir de la solution, directement, je dirais, à partir du bécher au produit fini. Quand on fait une mise en forme, il faut évidemment que le produit soit mou. Alors, soit par fusion, dans le cas du verre, soit on fait une pâte avec de l'argile et de l'eau, dans le cas des céramiques, et ensuite on chauffe à haute température. Eh bien là, on va pouvoir fabriquer directement, je dirais, l'objet fini, le matériau fini, à partir de la solution. Alors on va pouvoir, par exemple, faire des petites billes de quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Si on les dépose à l'intérieur d'un tube, ben, ça veut dire que la porosité, c'est en gros le tiers du diamètre des billes, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la dizaine ou quelques dizaines de nanomètres. Dizaines de nanomètres, ça veut dire que tout ce qui est biologique, virus, bactéries, etc., ne passe pas. Donc vous pouvez directement pomper de l'eau dans un étang, dans n'importe quoi, et vous la faites passer ensuite, vous voyez, latéralement, à travers cette membrane d'ultrafiltration, et tout ce qui est biologique reste dedans. Et donc vous pouvez la boire, elle est saine sur le plan biologique, sans avoir à faire des procédés de purification. Vous n'éliminez pas, évidemment, les nitrates ou des choses comme ça. Hein. Deuxième chose, hein, on peut faire un gel c'est plus ou moins mou, et donc on peut faire de l'extrusion dans un piston, et on a des fibres. On a des fibres sans être passé par la fusion. Alors par exemple des fibres d'alumine, pour les faire par fusion, il faut chauffer au-dessus de 2000 degrés. Et vous avez ici un exemple de fibres, ce sont les tuiles réfractaires de la navette Columbia, qui sont des tuiles à base d'alumine silice, donc point de fusion très élevé, et elles sont faites par ce procédé-là. Et le procédé industriel le plus développé, eh bien, c'est d'utiliser cette solution colloïdale comme on utilise une peinture, c'est-à-dire pour badigeonner, pour refaire des revêtements, des films minces, sur des substrats, sur du verre. Donc on peut faire un revêtement sur des vitrages, par exemple pour changer la coloration, pour donner un aspect anti-reflet, etc., pour optimiser des propriétés optiques, sur des pare-brises d'automobiles, sur des panneaux solaires, pour éviter la réflexion du soleil qui est un maximum qui traverse. Et là, il y a énormément de produits industriels qui ont été déjà développés. Avec deux techniques de dépôt extrêmement simples, ce qu'on appelle le trempage, vous prenez la vitre, vous la plongez dans la solution et vous la retirez. Et c'est fini. Ou bien par pulvérisation, comme si vous aviez une peinture, avec un pulvérisateur sur des pièces plus petites. Vous pouvez, comme vous n'avez pas à chauffer, ou du moins vous séchez ensuite à 200-300 degrés maximum, bien vous pouvez déposer ça sur un peu n'importe quel substrat, sur du verre bien évidemment, mais aussi des métaux, des polymères, des textiles, du silicium. Donc vous voyez des applications extrêmement variées dans tout un tas de domaines que je ne développe pas. Voilà. Deuxième possibilité, c'est de faire des matériaux nouveaux, qu'on ne savait pas faire auparavant. Et là, c'est peut-être le plus intéressant, c'est ici de faire ce qu'on appelle des matériaux hybrides, organo-minéraux, où il y a à la fois de l'organique et du minéral. Alors pourquoi est-ce possible? C'est possible parce que là, on est en train de faire de la chimie minérale, de fabriquer un matériau oxyde, et bien dans les mêmes conditions que nos collègues organiciens font leur chimie organique, dans des solutions avec de l'alcool, de l'eau ou d'autres solvants, à température ambiante. Et par conséquent, on peut simultanément dans le même bécher mettre des molécules organiques et des molécules inorganiques et fabriquer un matériau qui va être un nanocomposite de tout ça. Et donc, on peut faire toute une gamme de matériaux qui vont de 100% silice et du verre à 100% polymère, par exemple du plexiglas et des choses comme ça, avec toute la graduation de l'un à l'autre. Ça, ce sont des matériaux tout à fait nouveaux, et vous voyez qu'ils peuvent être mis en forme par moulage, polissage, etc., un peu comme on met en forme des matières plastiques. Là, il y a des applications énormes, hein, avec des noms comme ça, selon la nature, enfin, comme selon les gens qui ont fabriqué, et il y a alors un éventail d'applications que je ne vais pas non plus développer, je vais juste en souligner deux ou trois, dans le domaine de l'optique. Vous pouvez mettre une molécule organique qui a des propriétés optiques à l'intérieur d'une matrice de silice, ça va la protéger. Et donc, vous allez avoir des matériaux qui vont avoir gardé leurs propriétés plus longtemps. Vous pouvez faire de la luminescence, de l'effet laser, de l'optique non linéaire, du photochromisme, etc. Il y a énormément d'applications possibles. Voici, par exemple, des revêtements colorés sur du verre, soit pour faire simplement joli, là, comme ces cristaux qui sont ici, soit dans le cas des bouteilles qui sont là. L'intérêt, c'est une firme japonaise qui a fait ça. L'intérêt, c'est le suivant, c'est quand vous prenez du verre coloré, vous le jetez ensuite dans la poubelle et il est recyclé pour faire du verre. Mais s'il est coloré, vous ne pouvez pas faire du verre blanc après. Les colorants, les pigments minéraux restent là. Donc vous pouvez faire que du verre coloré et ça va se dégrader progressivement. Là, par contre, comme le colorant est organique, si vous refondez le verre au-dessus de 1000 degrés, le colorant part et vous pouvez refaire du verre blanc. Donc ça pourrait être un intérêt de cette affaire-là. Vous êtes dans un domaine hybride organique-minéral. Donc vous avez des précurseurs avec un côté, je dirais, organique qui va se fixer sur des polymères. Si vous avez des lunettes qui sont en plastique, ça se raye facilement. Ben, si vous déposez ça, la partie organique va se poser sur la partie plastique et à l'extérieur, ça va donner de la silice. Donc ça vous fait un revêtement de silice sur des lentilles plastiques. Donc un revêtement anti-abrasion. Ou l'inverse. Vous déposez la partie silice sur le verre et la partie organique est vers l'extérieur. À ce moment-là, c'est hydrophobe et vous n'avez pas besoin d'essuie-glace pour le pare-brise de votre avion. Donc ça fait des revêtements hydrophobes. Vous pouvez aussi, comme le matériau est mou, vous le déposez et faire de l'estampage. Et donc faire du relief. Par exemple ici, le relief classique de la feuille de lotus qui va faire des surfaces hydrophobes. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de procédés de mise en œuvre, de mise en forme, qui permettent de développer ceci. Juste une application amusante de collègues israéliens pour faire des crèmes solaires. Les crèmes solaires, donc pour protéger des UV, c'est en général des produits organiques. Mais sous l'effet des UV, ils se dégradent et donnent des radicaux libres, et il vaudrait mieux qu'ils ne pénètrent pas dans la peau. Donc ce qui a été fait, c'est d'encapsuler ces produits organiques à l'intérieur de microbilles de silice, d'en faire une émulsion, une crème, qui est maintenant fabriquée, je crois que c'est par Merck, qui est fabriquée ici, et donc les produits organiques restent enfermés dans ces petites capsules. Donc juste pour finir sur cet aspect application, on peut faire des applications, je dirais, entre guillemets sensationnelles. C'est le toit du Théâtre National de Pékin qui a été fait au moment des Jeux Olympiques, qui est un toit hydrophobe avec silice et titane. C'est fait par le procédé Sol-Gel. Ou bien alors des applications tout à fait banales. Quand vous avez votre fer à repasser, maintenant, les semelles du fer à repasser, il y a une couche qui est un hybride de silice et organique qui permet que ça glisse bien sur le linge. Donc vous voyez, une gamme d'applications extrêmement là. J'en viens maintenant à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la partie biologique. L'intérêt de cette affaire-là dans le domaine de la biologie. Alors dans le domaine des biotechnologies, c'est-à-dire qu'on va utiliser des enzymes, des protéines, des cellules, des anticorps, etc. Mais en général, ce qu'il faut, c'est essayer de les conserver, donc de les immobiliser dans quelque chose, de façon que, je dirais, le bébé ne parte pas avec l'eau du bain. Eh bien, en général, c'est immobilisé, évidemment, dans des polymères organiques ou biologiques, pour des raisons de compatibilité. Ici, comme on fait le verre à température ambiante, on peut immobiliser dans une matrice de verre. Il suffit de rajouter à la suspension le précurseur, l'acide silicique dont j'ai parlé, et la silice va condenser autour, et vous allez avoir, ici c'est une enzyme, qui va être piégée dans une cavité qui s'est formée autour d'elle, et qui est de la silice, qui est du verre, donc qui est transparente, qui est solide, etc. Alors l'intérêt, c'est évidemment que, d'une part, cette espèce de cage en verre va protéger l'enzyme. C'est relativement fragile, une enzyme, vis-à-vis de réactifs extérieurs, vis-à-vis de la dénaturation, c'est-à-dire la modification de la conformation. Bien là, elle est un peu prisonnière dans un port, et par conséquent, elle va être stabilisée. Et, plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi jouer sur la nature du port, la nature chimique, en particulier organo-minérale, de façon à optimiser l'environnement dans lequel se trouve l'enzyme. Et dans ce cas-là, par exemple avec des lipases qui interviennent dans les réactions d'hydrolyse et estérification, donc c'est toute la chimie du pétrole, des matières organiques, etc., eh bien quand on contrôle le caractère hydrophile, hydrophobe du port dans lequel se trouvent les enzymes, on peut multiplier leur activité par un facteur de 100. et ces enzymes piégées, encapsulées dans des sols gels, ce sont maintenant des produits commerciaux qui sont vendus. C'est le catalogue Fluca qui est ici. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à des choses qui débouchent sur des applications. Un deuxième intérêt, c'est quand vous voulez faire des biocapteurs. L'exemple que je vais prendre, c'est le dosage du sucre dans le sang. Vous faites des biocapteurs, c'est d'un côté, vous avez des entités biologiques. Le sucre, et puis l'enzyme qui va être sensible au sucre. Et puis de l'autre côté, comme c'est un capteur, vous avez un signal électronique, optique, etc. Donc il y a d'un côté, il y a de la physique, de l'autre côté, il y a de la biologie. Et il faut bien sûr l'interface entre les deux, il faut quelque chose qui permette de passer de l'un à l'autre. Eh bien ça, c'est très facile à faire avec les procédés Sol-Gel, parce qu'on peut très facilement faire de la mise en forme. Alors l'exemple que je prends, c'est celui du dosage du sucre dans le sang, c'est-à-dire cette réaction-là, d'oxydation du sucre, catalysée par la glucose oxydase pour faire ces petits capteurs que tous les diabétiques connaissent. Eh bien on peut faire par exemple un dosage ampérométrique en utilisant une électrode classique qui s'appelle une électrode de Clark, dans laquelle en fait on dose la quantité d'oxygène. Cette électrode-là, on va déposer l'enzyme, la glucose oxydase, à son extrémité, simplement à l'aide d'un petit film de silice dans lequel a été piégée la glucose oxydase. Et on peut de cette façon-là faire un biocapteur. Donc d'un côté, il y a la glucose oxydase et le sucre, et le sang, et de l'autre côté, il y a toute la détection électrochimique. On peut aussi utiliser ce procédé-là, en réglant bien évidemment la viscosité, en utilisant des imprimantes à jet d'encre, un peu comme de l'encre. Et donc on peut faire des réseaux, vous voyez, avec des petits spots comme ceci, qui sont chacun un petit spot de gel de silice dans lequel vous avez mis une enzyme, en l'occurrence la glucose oxydase dans le cas présent. Et donc vous avez tout un réseau, et ce vous pouvez jouer sur la réaction qui est ici, donc que je viens d'indiquer, qui fabrique de l'eau oxygénée, et avec une autre enzyme qui est une peroxydase, vous utilisez ça pour faire une réaction colorée. Donc vous avez une réaction colorée, détection optique, il suffit de faire passer un faisceau de lumière dans chacun des spots, et vous voyez, vous pouvez immédiatement faire 100 mesures d'un coup. Donc il y a des intérêts sur le plan de mise en forme. J'arrive au domaine médical. Nanomédecine. Nanomédecine, eh bien l'idée c'est simplement la suivante, c'est d'utiliser des nanoparticules. Ces nanoparticules ont une propriété qui soulève les foules, l'angoisse des foules, c'est-à-dire qu'elles peuvent traverser les membranes de la cellule. Mais si, il y a toujours le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser ces nanoparticules pour transporter quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, en l'occurrence des médicaments. Donc on peut faire des nanoparticules et c'est qui vont être injectés dans le circuit veineux, sanguin, et qui vont traverser les membranes pour aller à l'intérieur des cellules. Alors bien, plusieurs façons de le faire, soit par une méthode aérosol, on prend un aérosol et on le sèche, soit en présence d'une émulsion, je passe sur les détails, mais on peut faire des nanoparticules comme ça, dont le diamètre va de la dizaine de nanomètres au dixième de micron. Donc ils sont capables de traverser les membranes. Alors ces nanoparticules, il faut les travailler, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut mettre le produit qui va servir de médicament, par exemple. À l'extérieur, il faut mettre du polyéthylène glycol ou quelque chose comme ça qui assure la furtivité. Furtivité, c'est-à-dire que la particule va traverser l'organisme sans être piégée par le foie ou par un autre organe. Et il faut mettre à la surface des sondes qui vont reconnaître, si on veut par exemple détecter des tumeurs cancéreuses, qui vont être capables de reconnaître la tumeur cancéreuse, de se fixer sélectivement sur la tumeur cancéreuse et de pénétrer à l'intérieur. Ensuite, elles vont pénétrer par endocytose à l'intérieur des cellules que l'on a ciblées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire de l'imagerie médicale. C'est-à-dire que si on met à l'intérieur un produit qui va être capable d'émettre de la lumière sous excitation, le produit va aller, par exemple, ici, à l'intérieur de la souris, et puis vous allez pouvoir détecter que les tumeurs cancéreuses, peut-être à peu près la prostate ou quelque chose comme ça pour la souris. Au laboratoire, on a développé des procédés où la luminescence va durer pendant 2 ou 3 heures. C'est-à-dire qu'on peut injecter la particule et suivre son cheminement pendant 2 ou 3 heures jusqu'à l'endroit où elle va se concentrer. Vous voyez que la luminescence se concentre progressivement. Ce que l'on peut faire, c'est si on a un colorant dedans, c'est l'exciter le colorant et il va faire des radicaux libres, par exemple, qui vont détruire la cellule, la tumeur cancéreuse. Vous voyez, ça c'est avant et après la tumeur cancéreuse qui a été détruite. Ou on peut mettre des petites particules magnétiques et sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, ces petites particules vont s'échauffer, mettons à 60 degrés. 60 degrés, c'est suffisant pour tuer une tumeur cancéreuse. Donc on peut faire de l'imagerie, mais on peut faire aussi de la thérapie. Et puis enfin, ces cellules, ces nanoparticules, une fois qu'elles ont pénétré à l'intérieur de la cellule, eh bien elles peuvent libérer ce qu'elles ont emporté et libérer un médicament. Alors l'intérêt, par exemple, c'est ce produit-là, cette molécule qui est issue de cette plante ici, est un anticancéreux puissant. Mais c'est pas soluble dans l'eau. Donc si vous prenez cette molécule et vous l'injectez dans le sang, elle n'est pas soluble, elle ne va pas se propager. Par contre, si vous la mettez dans une capsule de silice, qui elle est hydrophile, c'est dispersable dans l'eau, elle va pouvoir transporter la molécule jusqu'à l'intérieur de la cellule. Donc deux intérêts là. Premièrement, elle va transporter là où il faut. Et deuxièmement, par ailleurs, quand vous faites de la chimiothérapie actuellement, vous savez bien que les drogues que l'on donne vont détruire la cellule cancéreuse, bien sûr, mais toutes les autres aussi. Et donc c'est tout à fait dramatique. Là, toutes les autres cellules sont épargnées. Seule celle qui est ciblée va être détruite. Alors c'est pour vous montrer que c'est un procédé qui est déjà... il y a des start-up qui ont démarré. Ça, c'est une start-up en France. Et ils en sont quand même à l'étape des essais précliniques à l'hôpital Gustave Roussy. Donc c'est quand même pas encore sur le marché, faut faire attention, mais c'est quand même des techniques qui sont maintenant assez avancées. Alors, si je regarde encore, j'essaye encore de m'inspirer des diatomées, ce que je constate, c'est qu'à l'intérieur de cette cage de verre, il y a une cellule, il y a un être vivant. Donc ma question que je me pose, c'est est-ce que moi, chimiste, je serais capable de conserver vivantes des êtres, mettons des cellules ou des organismes, à l'intérieur d'une cage de verre. Cage de verre pour le protéger, pour le transporter, pour faire un capteur, pour faire un réacteur. Donc c'était ça un peu le défi que l'on a. Alors le défi que l'on a, en fait, il est assez facile à réaliser. Vous prenez, je vais prendre ici des bactéries, qui sont par exemple des colis, enfin peu importe la nature de la bactérie, vous prenez une culture de bactéries et vous mettez dedans le précurseur, l'acide silicique, qui va donner la silice, exactement pareil que tout à l'heure pour l'enzyme, bien la silice va se former autour de la bactérie et va la piéger. Alors, il faut dire que ce procédé-là est quand même un petit peu dur pour la bactérie qui subit un stress important et la conséquence, c'est qu'en général, elle va pas vivre très longtemps. Donc, ce que l'on fait, c'est de mettre autre chose, par exemple du glycérol, des biomolécules ou des molécules organiques, en même temps dans le milieu de culture, avant de verser la silice. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe. Au lieu d'avoir un contact direct entre la bactérie et la silice, vous avez ici une couche de glycérol qui s'intercale entre les deux et qui protège la bactérie. Donc on peut piéger les bactéries à l'intérieur en les protégeant. Et ensuite, il faut vérifier si ça marche. En particulier, la bactérie dont je parle, la coli, elle a des propriétés enzymatiques. Par exemple, elle catalyse l'hydrolyse de ce produit-là. Alors, la réaction n'est pas très intéressante. Le seul intérêt, c'est qu'elle donne du paranitrophénol qui est jaune, c'est-à-dire que ça va nous permettre de suivre facilement la réaction. Donc, on prend le gel avec les bactéries, on met en présence du réactif, et puis si ça devient jaune, c'est que ça marche. Donc, on regarde si ça marche, et effectivement, si on suit un petit peu le processus, on voit que ça suit bien une loi de Michaelis-Menten, c'est-à-dire les lois classiques de la catalyse enzymatique, et que l'on a des résultats tout à fait satisfaisants. C'est même un peu meilleur, ça marche même un peu mieux dans le gel que si on avait simplement les bactéries libres en suspension dans un milieu de culture. Alors, faut voir que c'est pas évident cette affaire-là. C'est pas évident parce que les enzymes se trouvent à l'intérieur du cytoplasme, c'est-à-dire que la réaction de catalyse se fait ici à l'intérieur de la bactérie, et il faut que les réactifs qui viennent de l'extérieur traversent la silice, puis traversent la membrane. Donc il y a un double processus de diffusion pour que ça marche. Un exemple intéressant, c'est celui de ces bactéries-là, qui fabriquent un pigment, qui est un pigment rouge, que l'on voit ici, hein, vous voyez que les bactéries sont rouges, et c'est cette molécule-là que l'on appelle la prodigiosine. Alors pourquoi s'appelle-t-elle la prodigiosine ? Eh bien parce qu'elle est à la base du miracle de l'hostie qui saigne. C'est quand un pèlerinage de Pierre de Serbie, je crois, pour aller au Vatican. Et vous voyez qu'au moment de l'élévation, quand on regarde l'hostie, il y a des taches rouges sur l'hostie. Bien évidemment, tout le monde s'est mis à crier au miracle, c'est le sang du Christ. En fait, c'est quelque chose d'assez classique, à savoir que c'est des bactéries, ces bactéries-là, qui produisent un pigment rouge, et donc qui donnent un effet un petit peu comme si c'était du sang. Bon, ce qui est intéressant, d'où le nom de prodigiosine, hein, ce qui est intéressant, c'est que ce produit, fabriqué par ces bactéries, a des propriétés thérapeutiques qui sont assez intéressantes. En particulier, c'est ce que ça induit l'apoptose, c'est-à-dire la mort, des cellules cancéreuses du côlon. Ça, c'est la publication qui en fait état, donc il y a une dizaine d'années. Vous voyez qu'en présence de prodigiosine, la viabilité des cellules cancéreuses diminue très vite, alors que les cellules saines ne sont pas atteintes. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de demander à ces bactéries de nous fabriquer de la prodigiosine de façon à pouvoir en faire un médicament. Alors, pour faire ça, voilà ce que l'on a fait. On a fait notre gel de silice qui est ici, donc c'est blanc laiteux, hein, à l'intérieur desquels on a piégé les bactéries en question. On met au-dessus un nutriment, parce que si on veut que les bactéries travaillent, il faut les nourrir. Donc il y a un milieu nutritif au-dessus qui contient un certain nombre de molécules organiques. Et puis on regarde ce qui se passe. Ben, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ça devient rose. Rose, ça veut dire que la bactérie a fabriqué de la prodigiosine. Selon la densité optique, bien évidemment, on peut suivre la quantité. Et vous voyez que au cours du temps, la quantité de prodigiosine fabriquée augmente. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle augmente plus dans le gel que si on avait simplement une culture de bactéries. C'est-à-dire qu'on les fait, elles travaillent encore mieux. Alors la raison, c'est assez simple, c'est que le pigment qui est fabriqué n'est pas soluble dans l'eau. Le gel de silice est un milieu hydrophile dans lequel la prodigiosine n'est pas soluble. Donc dès qu'elle est fabriquée, ici où c'est blanc, mais en fait elle est extraite dans le milieu nutritif qui est un milieu organique. Donc on déplace l'équilibre, la bactérie ne s'aperçoit pas qu'elle en a fabriqué, donc elle continue à fabriquer, et on peut de cette façon-là augmenter le rendement de fabrication par rapport à une culture classique. Donc on peut imaginer tout un tas de bioréacteurs basés là-dessus. Alors il y a un point qui peut être intéressant aussi, qui est le suivant, qui est ce qu'on appelle la communication chimique entre bactéries. Les bactéries, vous savez, si vous les cultivez, ça va faire des colonies. Et elles vont échanger, elles vont se parler les unes aux autres, en échangeant des molécules, des signaux chimiques, qui sont des molécules telles que celles-ci. Hein. Donc c'est des molécules pas très compliquées. Et simplement, ces molécules-là, quand elles vont pénétrer à l'intérieur d'une bactérie, elles vont avoir pour effet de modifier son métabolisme. Ça veut dire que les bactéries vont avoir un comportement collectif. Alors, ça se passe de la façon suivante. Ces molécules émises par une bactérie arrivent sur une autre bactérie où elles sont reçues par un récepteur qui est ici en jaune, et ça donne un complexe qui va activer certains gènes. Activant certains gènes, ça va déclencher certains processus de métabolisme à l'intérieur de la bactérie. Ça se produit en général quand les bactéries forment des colonies, c'est-à-dire quand elles viennent en contact les unes avec les autres. On appelle des molécules de quorum sensing, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre, une certaine densité de bactéries pour que ce soit efficace. Alors ce qui est intéressant, ça c'est ce qui se passe si vous faites une culture bactérienne, normale. Ce qui est intéressant dans le cas où on est, c'est que nos bactéries ont été piégées dans un gel de silice. Vous les voyez ici au microscope, il y en a une là, une là, une là. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas venir en contact, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se parler les unes aux autres. Elles ne peuvent pas se parler les unes aux autres, et par conséquent, je peux, moi, de l'extérieur, leur parler en injectant certaines molécules. Donc je peux contrôler la situation en ajoutant des molécules de quorum sensing. Donc je vais pouvoir étudier le comportement d'une bactérie isolée et non pas d'une colonie de bactéries avec un comportement collectif. Vous allez me dire, c'est peut-être amusant, mais en fait, c'est plus qu'amusant. Premièrement, Je reprends la manip précédente, mais j'ajoute maintenant des molécules de corone sensing. Je vais préciser lesquelles tout de suite après. Bien, vous voyez que la production est encore meilleure. C'est-à-dire, j'améliore encore la production de prodigiosine. J'ai modifié le métabolisme de façon à exacerber la production. Donc, si je veux faire un bioréacteur, ça va être encore mieux. C'est ce qui est écrit ici. Deuxième point important, c'est celui qui est ici. Si je regarde la viabilité des bactéries, c'est-à-dire si je regarde au bout d'un certain temps, si elles sont toujours viables, vivantes, il y a un certain nombre de tests pour faire ça, en particulier un test simple, c'est vous prenez la bactérie et vous la mettez dans un milieu de culture, et si elle forme une colonie, ben, si elle est capable de se diviser, c'est qu'elle est encore vivante. Donc on peut regarder ça. Et ce qui est intéressant, ça c'est un peu déformé, c'est pas le même, c'est le résultat suivant, c'est qu'avec certaines molécules que j'appelle C6 ici, peu importe, vous avez une viabilité qui est de 100% au bout d'un mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, toutes les bactéries sont encore vivantes. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous faites une culture où il n'y a plus que 40% des bactéries vivantes. Donc ça veut dire que vous avez le moyen, grâce à ces molécules de quorum sensing, si vous en comprenez le fonctionnement, vous avez le moyen d'optimiser, de faire travailler au mieux vos bactéries pour faire un bioréacteur. Ce n'est pas le seul intérêt. Il y a un intérêt pratique, c'est celui que je viens de souligner, l'améliorer, la fabrication d'un bioréacteur. Il y a un intérêt théorique. La vie a commencé par des unicellulaires et a continué sur des pluricellulaires. La communication chimique entre bactéries, c'est le passage de comportement isolé d'une cellule à un comportement collectif, c'est-à-dire quasiment au comportement de nos cellules à l'intérieur de l'organisme. Donc, comprendre comment ceci s'est passé permet de comprendre l'évolution, la naissance de la vie, le développement de la vie, le passage donc au précambrien, hein, le passage aux organismes pluricellulaires. Et puis, ça va nous permettre de comprendre mieux comment marche le quorum sensing, puisque je suis le maître de la situation, ce qui n'est pas le cas quand il y a une colonie. Alors, voilà un exemple important. Bien sûr, quand vous avez des bactéries, vous savez bien qu'il y a cette source d'infection bactérienne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une infection bactérienne? Vous avez des bactéries qui viennent, par exemple, sur vos dents. Tant que ces bactéries sont isolées et ne communiquent pas entre elles ne sont pas pathogènes. Donc, vous n'avez rien. Mais elles vont se développer, former des colonies, et à ce moment-là, elles échangent des signaux, elles se parlent entre elles, ont un comportement collectif, et se mettent à fabriquer des biofilms. À ce moment-là, d'une part, elles se protègent du milieu extérieur, et deuxièmement, elles deviennent agressives, et là, vous êtes malade. Donc vous voyez que ce processus est extrêmement important, puisque cet échange de molécules de quorum sensing va contribuer à rendre les bactéries pathogènes. Alors, si on peut comprendre cette affaire-là, ça veut dire qu'on devrait être capable maintenant de trouver le moyen d'empêcher cette communication chimique. C'est ce qu'on appelle le quorum quenching. C'est-à-dire, c'était le quorum sensing, c'est-à-dire ces molécules bleues, les molécules de signal, arrivent dans la cellule, forment un complexe et activent le gène. Mais si je trouve des molécules rouges qui bloquent le processus, à ce moment-là, il n'y a plus de communication chimique. Alors, quel est l'intérêt de cette affaire-là? Il est à peu près évident, hein, l'intérêt de cette affaire-là, c'est-à-dire quand vous avez une infection bactérienne, on vous en donne des antibiotiques, vous savez que si on prend trop d'antibiotiques, les bactéries deviennent résistantes et qu'on ne sait plus quoi faire. Donc c'est un autre moyen de lutter contre les infections bactériennes sans utiliser d'antibiotiques. Bien, dernier exemple que vous voulez montrer, alors là c'est complètement différent, je voudrais vous montrer qu'on peut pas simplement s'inspirer des micro-organismes, mais ce qu'on peut demander maintenant aux micro-organismes, en l'occurrence ça va être des virus, de travailler pour nous, pour fabriquer non pas leurs biomatériaux à eux, mais pour fabriquer les matériaux qui nous intéressent, nous, dans notre technologie moderne. Alors l'exemple que je prends, c'est celui des virus, et on va leur demander de nous fabriquer des batteries. Vous avez eu un exposé sur les batteries récemment. Alors, le virus, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Disons que c'est un micro-organisme où il y a deux éléments essentiels. Il y a le génome de l'ADN ou de l'ARN qui est ici. Et puis, ce génome est protégé par un manteau de peptides, c'est-à-dire d'acides aminés, qui l'entoure et qui le protège. Donc, ça, c'est le virus classique de la mosaïque du tabac. Ça a la forme d'un petit bâtonnet comme ceci. Et vous avez le génome à l'intérieur et puis à l'extérieur des peptides, des acides aminés. Alors, les peptides, c'est formé d'acides aminés. donc avec une partie amine, une partie acide. Il y a toute une vingtaine d'acides aminés. Et là, vous avez un groupement latéral fonctionnel qui peut être une amine, qui peut être un groupement soufre, qui peut être un groupement aminé, un groupement carboxylate, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Ensuite, ces acides aminés se lient les uns aux autres par toujours élimination d'une molécule d'eau et formation d'une liaison peptidique. Et vous avez, de cette façon-là, formation d'une chaîne qui n'est pas toujours de longueur variée, avec un certain nombre d'acides aminés dedans. Donc ça, c'est le manteau qui protège les virus. Alors, prenons par exemple le virus de la mosaïque du tabac. Le manteau, il y a pas mal d'acides aminés lysine. Lysine, c'est un acide aminé avec une fonction amine latérale, positive. Le précurseur de la silice, c'est le silicate négatif. Ben, vous devinez que si on met une solution silicate en présence du virus, les ions silicates vont venir se fixer sur le manteau et ils vont venir précipiter. Donc ça vous sert de template, de moule. Et par conséquent, vous allez fabriquer, précipiter la silice autour du virus. Il a une forme de bâtonnet et donc vous allez obtenir des tubes de verre. Alors, tubes de verre, c'est pas passionnant. Ce qui va être plus intéressant, c'est d'essayer de faire des batteries. Alors, une batterie, c'est quoi? C'est en fait deux matériaux, deux électrodes, anode, cathode, et puis des ions lithium qui se promènent de l'un à l'autre. À la décharge, ça va de gauche à droite. À la charge, ça va de droite à gauche. Chance inverse si vous appliquez, hein. Donc, c'est la façon de recharger. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez deux matériaux, deux solides, et des ions lithium qui vont passer de l'un à l'autre. Mais évidemment, un ion lithium, ça a du mal à entrer dans un solide. Il faut qu'il soit poreux, il faut qu'il soit lamellaire, etc. Mais il va avoir du mal, il va mettre du temps. C'est-à-dire que la capacité, le nombre de lithium qu'on va pouvoir injecter dedans va être limité. À moins que on fasse des solides extrêmement divisés, donc très fins à ce moment-là, comme la surface est très grande, ça va pénétrer beaucoup plus facilement. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire des électrodes qui sont basées sur des virus. Alors le virus en question, il s'appelle M13, c'est un bactériophage, c'est-à-dire qu'il est pathogène pour les bactéries, pas pour l'homme. Il a cette forme-là. L'idée, c'est de modifier le manteau qui est ici, qui est contrôlé génétiquement par le génome. D'accord ? Donc on va modifier ce manteau de façon... Alors on veut faire des électrodes qui soient des oxydes de cobalt, c'est un des meilleurs actuellement. On va le modifier de façon qu'il soit capable de fixer de façon spécifique les ions cobalt d'une solution. Alors ça, c'est pas évident, ça dépend du génome. Par conséquent, ce que l'on fait, c'est une analyse génétique, c'est-à-dire qu'on prend une population de ces bactéries, ayant chacune un génome différent, et on regarde celles qui se fixent sur le cobalt. Donc on fait une sélection génétique, et ensuite on les garde de côté, et on fait une multiplication. Les virus se reproduisent à l'intérieur de bactéries, donc on les met en présence de bactéries qui vont cracher et nous faire des quantités importantes de ce virus. Donc voilà la manip, c'est une sélection génétique de façon que le virus soit capable de reconnaître de façon spécifique telle ou telle chose. Alors en l'occurrence, on voulait pour des ions cobalt, et ce qui marche bien, c'est ceux qui ont à la surface des acides aminés glutamate, c'est-à-dire avec des fonctions carboxylate négatives. Négatif, bien sûr, ça va attirer le cobalt positif, et par conséquent, on va précipiter à la surface de ce virus des particules d'oxyde de cobalt. En faisant un peu de chimie, on peut obtenir l'oxyde qui nous intéresse, c'est-à-dire le CO3 ou 4, et on a des petits filaments d'oxyde de cobalt. Alors, petits filaments, je ne sais pas si vous avez vu, la longueur, ça peut être un micron, mais l'épaisseur, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc des choses très fines. Vous devinez que les ions lithium n'auront pas trop de mal à pénétrer dans ces toutes petites billes. Beaucoup moins de mal que si c'était un morceau d'oxyde de cobalt. Alors si on fait cela, on a maintenant des virus recouverts d'oxyde de cobalt. Ils sont sous forme de bâtonnets, c'est-à-dire qu'ils se comportent un peu comme des cristaux liquides en suspension. On va pouvoir les déposer sur un substrat et on va pouvoir faire une batterie qui est ici, dans laquelle vous avez, là je pense que c'est du graphite, qui est à droite, un électrolyte qui est ici, qui contient des ions lithium qui vont pouvoir se promener, et l'anode, elle va être en fait avec ces virus-là. Et on obtient de cette façon-là, on obtient une capacité qui est deux fois celle d'une batterie à l'oxyde de cobalt classique. Alors ça ouvre la porte vers tout un tas de choses, à tout un tas de nanobatteries. Vous voyez qu'ici, les batteries, c'est en gros, ils peuvent avoir la taille d'une cellule. Et je vous ai mis un titre de Wall Street Journal, qui est quand même a priori un journal sérieux, qui vous montre que avec les virus, on peut faire des batteries. Voilà. Je reviens à notre collègue et ami Charles Darwin, qui s'était émerveillé sur la beauté des frustules de silice de ces diatomées. Il se demandait si c'était simplement pour le plaisir des yeux. Ben, c'est pas que pour le plaisir des yeux. La beauté inspire aussi les chimistes. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci.
Alors, il y a une question au milieu.
Merci. Merci d'abord pour cet exposé remarquable. Vous nous avez fait remarquer l'extrême diversité, l'extrême beauté des frustules de diatomées.
Oui.
Et vous avez attiré notre attention sur la disposition des pores qui dépassent tous les espoirs des meilleurs géomètres. Est-ce qu'il y a des études de génétique qui précise la relation entre l'ADN de ces diverses espèces? Vous avez donné un nombre d'espèces faramineuses, j'ai oublié.
100 000, oui.
100 000. Est-ce qu'on a étudié la génétique de ces espèces pour arriver à maîtriser le lien entre, pas un gène, un enzyme, mais un gène, une fustule, et avoir un moyen de faire des structures poreuses extraordinaire. Est-ce qu'il y a des choses dans ce domaine? Je suis biologiste et j'aime assez entendre les relations entre la biologie et la chimie.
C'est des travaux qui se font avec des biologistes, et en particulier, nous, enfin, au laboratoire, on travaille avec l'équipe de l'ENS, qui est spécialisée des atomées. La réponse est positive. C'est-à-dire qu'il y a eu des génomes, d'analyser de diatomées, je crois qu'il y en a eu deux, premièrement. Donc, on connaît le génome d'au moins deux ou trois diatomées, ça a été publié il y a 2-3 ans, pas plus, Et les travaux qu'on fait avec ce groupe-là, c'est d'essayer de voir quels sont les gènes responsables, effectivement, de la formation de la silice. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, on arrive à savoir qui est qui. Alors ensuite, savoir pourquoi, comment se fait cette architecture à 3 dimensions, ça, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est un véritable défi. Je ne pense pas qu'il y ait un seul chimiste qui sache faire d'une one pot, comme on dit en anglais, la synthèse, partir du précurseur et avoir le matériau fini. Là, il faut bien dire que ça se forme à l'intérieur de vésicules. C'est-à-dire que ce n'est pas en milieu ouvert, c'est en milieu fermé, qu'il y a forcément des interactions avec la membrane du vésicule, etc., etc. Mais il y a des travaux qui essayent de décrire. Donc c'est des choses en cours.
Une question tout devant. Oui, je voudrais vous demander l'introduction dans le corps de ces nanomédicaments sous forme enrobée de silice. Est-ce que à terme il y a une toxicité? Et puis la deuxième question que je voudrais vous poser, quand vous élaborez des batteries, des choses comme ça à base de virus, est-ce qu'il y a un danger possible pour l'environnement lors de la destruction de ces éléments? Parce que malheureusement, l'univers se détruit aussi.
Oui. Alors, il y a deux questions et donc il y a deux réponses. Le problème, évidemment, des nanoparticules, même quand elles sont maîtrisées et qu'elles vont dans les cellules cancéreuses et pas autre ailleurs, c'est qu'à un moment donné, elles sont redistribuées dans l'organisme, les cellules cancéreuses vont mourir, elles vont aller dans le foie, donc il y a un problème, effectivement, de savoir quel est leur devenir. Ça, c'est des études qui sont en cours. C'est pas moi, là, il faut être médecin ou biologiste. Les travaux, a priori, ont l'air de montrer que c'est inoffensif, que la silice se dissout, qu'il n'y a pas d'accumulation dans le foie, etc. Donc, pour le moment, on en est à cette étape-là. C'est valable pour tout ce qui est nanoparticules, pour tous les médicaments, de toute façon. Alors, la deuxième question, c'était savoir si, quand je fais une batterie, donc j'ai mes fils métalliques qui sont avec un virus à l'intérieur, le virus est évidemment mort à l'intérieur. Et il n'a servi que de template pour donner la forme. Il n'est plus capable de se reproduire. Premièrement. Deuxièmement, c'est un virus bactériophage, donc qui n'est pas pathogène pour l'homme, mais pour certaines bactéries. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait de danger derrière cette affaire-là. Alors, j'ai signalé des électrodes à base d'oxyde de cobalt. Il y en a aussi, des travaux ont été faits récemment sur des électrodes en phosphate de fer. Je pense que quand Jean-Marie Tarascon a parlé des batteries, il a dû en parler. Et aussi avec du silicium. Donc il y a différents types de batteries qui sont fabriquées à partir de ces virus. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui est tout petit, tout fin. C'est ça. Donc il y a vraiment de la nanotechnologie au départ avec des micro-organismes.
Une question, monsieur, devant. Attendez le micro, s'il vous plaît. Attendez le micro, s'il vous plaît.
Merci. Comment se font les réactions? C'est au sein de la cellule
de l'élaboration de la silice?
Ou bien c'est... Oui, par exemple. C'est au sein d'un...
C'est à l'intérieur, à l'intérieur de la cellule, il y a des petits vésicules et c'est là où va s'accumuler le précurseur, la solution. Et c'est là où va se faire la réaction de condensation, de polymérisation, et ça va fabriquer des petites billes de silice. Si vous avez regardé de façon un peu fine, vous avez vu que c'était toujours des petites billes que j'avais. Ensuite, ces petites billes qui sont à l'intérieur de la cellule, via l'appareil de Golgi, vont aller sur l'extérieur et être déposées. Et c'est là où ça va donner cette architecture. C'est en jouant comme on joue la muraille de Chine avec des briques ou des pierres, je ne me souviens plus ce que c'est. Enfin, donc, avec des briques, vous fabriquez la muraille de Chine. Là, avec les petites billes, vous fabriquez ces structures tout à fait extraordinaires. Là, je ne sais pas comment.
Est-ce qu'on peut suivre la cinétique de la vitesse à laquelle ça se passe?
Oui, j'ai même un petit film qui montre en microscopie optique. Donc, on voit... Parce qu'on marque avec des protéines fluorescentes la silice qui se forme, qui doit être rouge alors que l'autre est verte. Donc on voit se former la silice, on peut suivre la cinétique. Mais pas à l'échelle atomique, à l'échelle du microscope optique. Et c'est de l'ordre de l'heure, là, de 1 à 2 heures. Et on voit par où ça passe. C'est-à-dire, vous avez la boîte là et ça commence juste, alors vous ouvrez la boîte, ça commence au milieu et ça se développe comme ceci sur les deux côtés.
Bien, s'il n'y a plus de questions, on reste à vous remercier, Jacques Livage.
Merci beaucoup.
Demain, vous pourrez écouter Philippe Walter pour une conférence sur l'invention d'une chimie pour la beauté. Merci.
Bien. Oui, ça c'est amusant. Hein. Merci.